Roger Munier, je ne l'ai pas rencontré et je ne l'ai jamais lu avec facilité. Mais c'est précisément parce que je l'ai lu avec difficulté que j'en retiens une leçon essentielle sur un point qui vient d'être abordé à sa façon par Yves Bonnefoy. Ce point consiste à, s'il se peut, dire le divorce des manières de dire entre ce que pourtant Roger Munier fut et reste, un poète, un penseur et, il l'a encore dit dans le film qu'on nous a présenté, un mystique. Il n'est pas besoin d'être un grand savant pour avoir constaté qu'il est quasiment impossible d'être à la fois un penseur, un poète et un mystique. Et si on prétend être les trois, il est à craindre qu'on ne soit aucun des trois. Or, Roger Munier, à mon avis, avait raison de revendiquer les trois titres, ou de les laisser lui être appliqué, parce qu'il avait, et c'est ça qui m'instruit chez lui, marqué, compris et défini l'opposition des trois styles, ce qui n'est pas courant. Alors pour me faire comprendre, je vais le citer, puis après j'essaierai de formaliser ce que l'on peut conclure. Je m'appuierai sur des textes qui ont été consignés dans le dossier que lui a consacré l'excellente revue Nonc, et qui sont des textes, pour l'essentiel, de 2010. Trois volets. Premièrement, la poésie reste dans l'avant. Ou encore, la poésie relève du dire qui précède la pensée et s'y tient. Pas d'autre accès à elle que le dit, son dit. Ou encore, le poème dit par lui-même comme avant la pensée. Et aussi, le dire premier précède la venue du sens, que la pensée alors scrutera. Ou bien, une écriture première en amont de toute écriture. Et encore, l'absoluité du dire dans sa spécificité qui précède la pensée. Et aussi, dire fut le premier mouvement. Le dire poétique par nature émerveillé ne quitte pas l'élément de ce Thomas Zein premier. Et enfin, ou disons que le poète parle avant de penser. Le poète parle avant de penser. Normalement, cet énoncé devrait provoquer un scandale comparable à la phrase de Heidegger « La science ne pense pas ». Et pourtant, il s'agit là de définir dans les deux cas la spécificité propre des types de logos. La science ne pense pas, puisqu'elle s'est définie elle-même par le calcul. Elle n'a donc pas à penser, elle calcule. Et le poète parle avant de penser, et c'est justement sa force. Donc la poésie est le dire qui, pour Munier, ne se dissocie pas, comme pour Lévinas, entre le dit et le dire. La poésie dit son dire, qui n'est pas ce qu'elle a à dire, puisqu'en un sens, elle ne pense pas ce qu'elle dit. Mais le propre de la poésie, c'est de pouvoir, surgissement d'un mot, faire paraître ce qu'elle ne pense pas encore, ce qu'elle n'a pas besoin de penser, ce qui n'a pas encore de sens, mais ce qui, par le dire, va surgir. Donc la poésie dit, et en disant, elle fait. Comme Dieu, en disant, crée. Ce n'est qu'après qu'on va se demander ce qui a surgi. Donc la poésie est la forme fondamentale de l'affirmation. Par opposition à la poésie, qui reste dans l'avant, et où le poète parle dans cet avant, au point de parler avant de penser, face à cette poésie, à ce premier usage du logos, intervient la pensée. Alors je cite à nouveau, « La pensée part du dire, avance dans le champ ouvert par le dire. La pensée cherche le mot qui se passe, lui le mot, qui se passe bien de la pensée. » Ou encore, « Dire, c'est d'abord toucher au réel sans penser. » Perfection du dire, que ce qui est dit ne soit connu de personne. Ou enfin, il n'y a pas de passage possible du dire de la poésie au discours de la pensée. Donc la pensée, c'est ce qui non seulement vient après le dit, mais qui n'en procède pas. La pensée s'ajoute au dit, mais ne s'en déduit pas. Le discours de la pensée est en solution de continuité avec le dit non discursif de la poésie. Le discours est donc le moment de la négation de l'affirmation. Alors, je voudrais attirer l'attention sur ce rapport étrange entre la poésie et la pensée. Le rapport habituel entre la poésie et la pensée, c'est que la poésie supprime le concept, se dispense du concept, et que ainsi, la poésie est le mouvement, d'une certaine manière, de la négation. Alors que la pensée, et d'abord la philosophie, avec le concept, est le moment de l'affirmation. Meunier renverse le rapport. La poésie est le moment de l'affirmation et la pensée, d'une certaine manière, est le moment de la négation. Alors, cette opposition a deux conséquences, enfin, a deux caractères adjacents. Qu'affirme la poésie ? La poésie, évidemment, n'affirme pas comme la philosophie affirme ou comme la logique dit que l'on affirme, c'est-à-dire en exerçant une prédication, en disant « ceci est tel », avec un sujet et un prédicat. Il n'y a pas de discours de la poésie, c'est donc une affirmation sans discours. C'est une évocation, je disais même une création, qui fait surgir ce qu'elle dit, mais qui ne le pense pas pour autant. Donc la poésie affirme, et elle affirme sans prédication. Que fait la philosophie ou la pensée ? Elle définit, et en ce sens, elle est le moment de la dénégation et de l'apophase. Comment définit-elle ? La pensée ne voit ce qu'a évoqué, instauré, installé le dire de la poésie. Elle ne le voit qu'en le comprenant. Elle ne le comprend qu'en lui imposant un concept. Un concept qui vaut pour tout ce qui relève de la classe. Et donc, elle supprime, ou plutôt elle se dispense, de la singularité du dit. Thèse que l'on peut faire remonter à Hegel, du moins dans l'interprétation de Kojève et popularisée par Lacan. Quand le concept intervient, la chose disparaît. Non qu'on la tue, On peut, mais ça n'est pas nécessaire. Elle est simplement remplacée et inutile. Le concept est donc le moment de la négation. Donc la pensée qui pense nie ce que la poésie a évoqué. Comment peut-on, si je puis dire, faire parler ces deux régimes de paroles qui se contredisent comme l'affirmation brute et pure et la négation discursive et conceptuelle du brut et pur? Je me suis interrogé en lisant, en relisant des pages de Roger Munier pour tenter de comprendre comment lui-même faisait cohabiter ces deux modes du logos. Et l'esquisse de solution que je vais vous proposer m'est venue de l'endroit d'où je n'attendais rien, à savoir ces constantes, cohérentes, professions de foi. Alors, j'en rappelle quelques-unes. Toute pensée plénière culmine en théologie. Mais grand Dieu, pourquoi? Comment? Je ne suis pas en quête du sacré, mais du saint. Cette fois-ci, c'est du pur Lévinas. Je suis chrétien, plus chrétien peut-être, le plus chrétien peut-être des gens qui pensent aujourd'hui. Audace rousseauiste qui a le mérite de la clarté. Pourquoi ceci m'a-t-il mis sur la piste d'une solution? Réponse. Car, et ceci a été évoqué dans le film, je m'en réjouis, car, disait Roger Munier, il y a la longue tradition de l'apophase, de la via negationis. Le lieu où une doctrine de l'affirmation et de la négation dans leur opposition et dans leur contraposition a été élaborée, ce fut la théologie, dans la théologie en fait chrétienne, parce qu'on ne trouve rien de comparable dans la pensée juive, ni bien entendu dans la pensée islamique, fut là ce qu'on appelle vulgairement la théologie négative. Et on a bien tort de l'appeler ainsi, car son nom technique, c'est la théologie mystique, ce qui fait que le mot mystique a une qualification positive et authentique. Or, la théologie mystique comprend, depuis Denis l'Areopagite jusqu'à Descartes, mais même après, non pas deux, mais trois voies. L'affirmation, la négation. Alors, je n'ai pas pu ne pas prendre l'hypothèse que peut-être Munier, justement, utilisait ces deux voies. Cela peut s'admettre à condition que nous acceptions de modifier légèrement les termes. Ici, l'affirmation, ça n'est pas la pensée. Ça n'est pas la discursivité. Ça n'est pas le concept, comme c'était le cas dans la théologie mystique. L'affirmation dogmatique est une proposition logique et conceptuelle, en un sens dont le matériau peut provenir, au moins partiellement, du lexique philosophique. Ici, c'est le dire dans sa puissance, j'allais dire créatrice, celui de la poésie, le dire de la poésie, qui a la fonction affirmative. L'affirmation n'est donc pas prédicative, elle n'est pas dogmatique, elle n'est pas cataphatique. Au contraire, c'est la négation qui est cataphatique. Donc il y a une modification des acteurs de ces deux rôles, mais les deux rôles sont conservés. Alors, avec cette rectification, j'avais un point de départ. La question qui se pose est évidemment celui de la troisième voie. Car la troisième voie est la plus difficile à trouver. Je n'en prendrai que pour confirmation. Ce fut l'objet d'un dialogue qui a duré des années et qui est devenu public à la fin avec Jacques Derrida. Je n'en prendrai pour confirmation que ce dialogue avec Jacques Derrida, qui n'a jamais admis, à mon avis, évidemment à tort, car les textes de la tradition sont absolument patents, qu'il y ait une troisième voie. C'est-à-dire, on peut toujours dire la voie par négation n'est qu'une manière d'opérer un retour à l'affirmation par un détour négatif. En fait, il y a une troisième voie. Quelle est cette troisième voie? Car après tout, avec un discours, on peut affirmer ou nier. Il n'y a que deux valeurs de vérité. Il n'y a pas de place pour une troisième valeur de vérité. Oui et non. Il n'y a deux valeurs de vérité que si l'on procède par prédication, que si l'on dit quelque chose de quelque chose. Mais parler, est-ce dire quelque chose de quelque chose? Oui, aussi. Non pas d'abord. Parler, c'est d'abord parler à, avant de parler de. On ne peut parler de qu'en parlant à. Et quand on parle à, si tout se passe bien, on cesse de parler de, d'un tiers. Si tout se passe bien quand je parle à, je finis par parler à celui à qui je parle, de lui, et pas d'un tiers. À ce moment-là, la parole devient véritablement intersubjective. Tant que je parle à quelqu'un, de quelque chose d'autre que lui, ce n'est pas encore la parole. Le propre de la parole, c'est de parler à. Et c'est pourquoi la parole peut être non seulement dialogue, mais communion. C'est pourquoi la parole peut être érotique, ou violente, ou les deux à la fois. La parole est donc fondamentalement parole à. Dans la parole à, je parle à quelqu'un, d'autant plus que je ne lui parle de rien. Que je ne lui parle de rien. Or, Munier entend ne parler de rien. Et il l'a dit souvent, cela a été répété dans le film, rien, ça n'est pas peu. Rien, c'est beaucoup, ça n'est pas l'absence de la chose dont on parle. Parler de rien, c'est évoquer comme la parole poétique. Évoquer le monde sans le concept. Ou plutôt, faire que, si je puis oser cette métaphore, faire que la chaleur du parler à fasse s'évaporer la froideur du concept et qu'apparaisse enfin dans le néant du concept, ce dont on voulait parler. Au lieu que le concept nous cache le monde, faire que s'évapore ce qui, dans le monde, le cache, ce qu'il indiquait très précisément. Dans le langage de Roger Munier, cela signifie que le fragment a pour effet de développer ce qu'il appelle la force productrice du silence. Cela consiste à dire que les mots se transcendent dans le silence. Que l'écriture est une production de silence. Le monde, je lis, un monde comme deux mots partout dressés, des choses qui sont des mots, où les choses, par bonheur, viennent parfois prendre la place des mots. Voilà la troisième voie, quand les choses, parfois, viennent prendre la place des mots. Dans la théologie mystique, cette troisième voie, c'est celle de la louange de Dieu qui est loué en tant que saint, en tant que bon, en tant que... Ou bien entendu, les mots ici n'ont aucun sens, car nous ne savons pas ce que nous disons quand nous rapportons des concepts à Dieu. Les mots ne sont utilisés que comme des déictiques qui vont, en quelque manière, se dissoudre en Dieu. Il n'y a plus que les choses. Les mots disparaissent. Cette opération de la louange qui fait disparaître les concepts dans la chose, c'est exactement, enfin, c'est ainsi, par analogie, que je comprends la troisième voie du discours, du logos que déploie la prose de Roger Munier. Simplicité proche des choses et même au plus ras d'elles, mais extrême. Et ceci est, si je puis dire, rapporté à la théologie chrétienne et à saint Paul de deux manières. La première, ceci permet de comprendre que nous sommes au monde comme n'y étant pas, car le monde est une présence qui se masque si nous voulons accéder à cette présence et la dire par le concept. Il faut en quelque manière que les concepts s'effacent pour que la chose paraisse. Il faut donc ramener le monde au néant pour qu'il apparaisse comme tel. C'est qui est exactement être au monde comme n'y étant pas. Celui qui est au monde comme il apparaît n'y est pas. Il faut donc, en quelque manière, rendre le monde à son néant pour qu'il apparaisse. Et ceci nous fait comprendre que si Dieu il y a, alors Dieu lui-même n'apparaît que dans sa kénose. Et là, je lis à nouveau une phrase qui date de 2010. « Dieu me parle dans sa kénose bien autrement que dans son éclat. » La seule rectification que je ferai, c'est que l'éclat de Dieu, c'est précisément ce qu'il a en propre, sa gloire, qui lui est à lui seul réservée, qui est sa kénose. Car nous, nous sommes incapables de kénose. Mais Dieu, si. Mais la kénose de Dieu et la néantisation du monde sont la même opération qui consiste à faire apparaître le dit de la chose, même dans le concept du monde. C'est ainsi que j'entends l'entrelacs des différents logoi de Roger Munier. Aurait-il dit quelque chose comme cela? Cela suffirait à en faire un compagnon de travail et de méditation dont la force permet d'éclairer certaines autres pensées dont on pourrait spontanément croire qu'elles éclairent celles de Roger Munier. Je fais allusion ici à Heidegger. Je vous remercie de votre attention.